Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Notre invitée donc, ce matin, s'est-elle longtemps couchée de bonne heure, je ne sais pas, hier peut-être, pour venir dans le studio de France Musique. Bonjour, rebonjour Chani Di Luca.
Bonjour Jean-Baptiste.
Plutôt matinale.
Matinale et insomniaque, donc c'est assez pratique.
Comme Proust.
Oui, finalement on a ça en commun et l'asthme aussi.
Entre autres. L'album Proust, votre dernier disque, est sorti voilà quelques semaines chez Warner Classics. Enfin, on en parle et enfin vous êtes dans ce studio. Une évocation au piano avec quelques invités aussi, plus qu'une restauration, une évocation de ces musiques chères au cœur de l'auteur de La Recherche du Temps Perdu. Chani Di Luca, vous, quand Proust est-il entré dans votre vie?
Écoutez, ça fait très longtemps, je pense à mon adolescence. Et ce qui me touche chez Proust, c'est justement cette recherche profonde, une sorte de recherche de la vérité, à travers un rapport au monde qui est extrêmement profond, une archéologie de soi-même, un sens de l'impression, et puis du souvenir et de l'amour. Donc c'est très compliqué de définir Proust, mais je crois que chacun peut se retrouver dans Proust, dans la littérature de Proust.
Depuis cette adolescence, il vous a accompagné tout au long de votre vie jusqu'à aujourd'hui, régulièrement vous revenez à La Recherche du Temps Perdu comme d'autres livres, d'autres romans.
Oui, je crois que c'est comme une grande sonate de Beethoven, elle vous accompagne toute la vie, elle se transforme au fur et à mesure que nous nous transformons nous-mêmes intérieurement, et je trouve que Proust tisse des liens qui, dans ce monde où tout se désunit, retisse des liens avec la vérité. Lui qui avait finalement une sorte d'observateur affûté des mondanités, mais aussi de tout ce qui était artistique, que ce soit la peinture, la musique, qui était matricielle dans sa vie. Je trouve qu'il nous ramène à nous-mêmes et à une certaine quête d'essence. Et c'est vrai qu'on peut le lire à toute période de vie, je pense. C'est quelqu'un qui nous accompagne, oui.
Beaucoup de gens qui n'ont pas lu Proust, parce qu'il a aussi la réputation d'un auteur difficile, qu'il n'est pas forcément, c'est pas si compliqué de lire Proust.
Non, et je pense que Proust...
C'est long, ça c'est sûr.
Oui, je crois qu'on est souvent impressionné par Proust, par la densité de l'écriture. Mais finalement, on peut aussi goûter à Proust de façon, ponctuelle. On n'est pas obligé de se lancer dans une lecture, ce qui a été le cas pendant le confinement. Par exemple, Nathalie Dessay s'est lancée, elle était absolument fascinée. Et le confinement est d'ailleurs en résonance avec le confinement que Proust a lui-même vécu. Donc il y a... Je pense que ça peut, d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe par rapport au Covid, où chacun est un peu isolé, je trouve que Proust justement donne une ouverture, une fenêtre au monde, une fenêtre à l'imaginaire. Et puis mes premières lectures étaient aussi Le plaisir et les jours, qui était donc un écrit de Proust sur la musique, sur le compositeur. Il a écrit des textes sur Chopin, sur Beethoven. C'est assez extraordinaire de voir comment Proust était relié à la musique. Pour lui, c'était quelque chose qui était au-dessus de tout, une sorte de communication des âmes.
Nathalie Dessay, qui est sur votre album Proust, d'autres invités. Il y a même des textes de Proust, on va voir ça tout à l'heure. Mais cet album, il commence, je disais, une évocation plus qu'une restauration, par une œuvre postérieure à la mort de Proust, et ce concerto de Reynaldo Hahn.
Thank you.
dense, vif, le deuxième mouvement de ce concerto pour piano de Reynaldo Hahn. Shani Di Luca, notre invité ce matin, l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Hervé Niquet. C'est sur ce disque paru chez Warner, l'album Proust, enregistré dans un cadre d'ailleurs très proustien, le Théâtre des Champs-Élysées, avenue Montaigne à Paris. Ça inspire le lieu ?
Oui, d'autant plus que ce concerto a été créé sous la baguette de Reynaldo Hahn, avec la grande Magda Tellaferro, qui était un peu la Martha Argerich de l'époque, en 1931. Et il l'a composé pour elle. Donc c'est une œuvre d'une grande virtuosité, avec quatre mouvements
très
passionnants.
Très peu connus.
Très peu connus, même mes collègues ne connaissaient pas. Il y a eu quelques tentatives par Jean Doyen de l'enregistrer. C'est une œuvre redoutable, mais en même temps chatoyante, et avec cet esprit de l'époque, mais aussi une grande poésie, une profondeur, une polyphonie. Qu'on connaît peu de Reynaldo Hahn, dont on a un peu l'idée d'opérette ou de mélodie. Il y a aussi un cycle pour piano, Le Rossignol est perdu, qui est d'une infinie poésie et que Proust adorait. Donc pour moi, c'était merveilleux avec Hervé Niquet, qui vraiment connaît cette musique par cœur, et l'Orchestre de Chambre de Paris, de pouvoir mettre en vie ce concerto. Et les descendants de Reynaldo Hahn étaient là lorsqu'on a enregistré, donc c'était très, très émouvant.
Comment on explique qu'une œuvre comme ça disparaissent un peu dans les limbes?
C'est très étrange. C'était un grand succès à l'époque, un grand succès public et critique. Mais c'est une œuvre aussi très difficile pour les pianistes. Dire vraiment la grande Magda Tagliaferro était vraiment réputée pour pouvoir affronter les plus grandes œuvres, les plus difficiles. Peut-être que, d'après ce que dit d'ailleurs Hervé, beaucoup de pianistes ont abandonné en cours de route. Là, c'était une occasion rêvée de faire découvrir ce concerto. Et je pense qu'on a une époque où on redécouvre aussi des compositeurs inconnus, compositrices inconnues, qui méritent d'être révélées. Et je pense que ça, c'est la beauté de notre époque.
Reynaldo Hahn, quel est son rôle? Alors, dans la vie de Proust, c'est l'ami intime, c'est l'amant, mais dans son éducation musicale?
Alors, Reynaldo Hahn lui-même était élève de Massenet, donc il y a une grande tradition de la musique française de l'époque, et d'autant plus que malgré ses origines vénézuéliennes, il arrivait très jeune à Paris, et il était très vite une coqueluche dans les salons parisiens, un grand érudit, un critique musical. Il a forgé d'ailleurs avec Marcel Proust, avec des discussions critiques, justement une sorte d'esthétique, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord. Ils ont partagé aussi l'amour du théâtrophone, qui est un peu l'ancêtre de la radio, puisque Marcel Proust écoutait de chez lui, avec des sortes d'écouteurs reliés aux salles de concert, 4 heures de Parsifal,
de Wagner.
Donc ils avaient des échanges très très forts, et Proust l'admirait infiniment, il disait que c'était un instrument de musique merveilleux.
Comment est né cet album Proust, Shani Di Luca? Il y a votre amour de Proust que vous nous avez, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Il y a ensuite la construction, les choix à faire. Je le disais, il y a eu beaucoup de disques Proust ces dernières années, très intéressants, des disques autour de cette fameuse sonate de Vinteuil avec Geneviève Laurenceau et David Bismuth, avec les frères Tchalik, avec les sœurs Milstein aussi. Puis l'année dernière, il y a eu un concert retrouvé, reconstitué par Théotime Langlois de Swart et Tanguy de Villiers. En cours, vous n'êtes pas la première, mais là, il y a, je dirais, oui, une évocation et quelque chose de très libre.
Oui, je dirais que tous ces disques sont remarquables d'ailleurs, et c'est aussi ce qui me fascine chez Proust, c'est que ça reste un mystère. Le rapport à la musique, Martha Argerich dit que l'amour et la musique sont les mystères de la vie. Et je trouve que chez Proust, il y a vraiment ce rapport. Donc, il parle de la musique, comme je vous disais, comme une sorte de matrice dans son œuvre. Il cite plus de 40 compositeurs. Il est très très intime de Debussy, de Fauré, bien sûr de Wagner, qui avec l'idée des leitmotifs suggère ces personnages récurrents qu'il y a dans La Recherche du Temps Perdu. Et puis il parle aussi de Chopin, de Beethoven. Donc c'est vraiment, ça a été très compliqué de choisir. J'essaie de garder une sorte d'unité sur l'âge d'or de la musique française, tout en ayant un rapport pour moi personnel avec la sonate de Vinteuil qui est inexplicable. C'est comme le petit mur de pan jaune qui est vraiment une sorte de mystère, parce que finalement ce qui importe c'est le souvenir et ce que ça évoque. On ne saura jamais ce que c'est que cette sonate de Vinteuil, il y a 1000 théories. Et là j'ai voulu mettre...
C'est un peu vain d'aller la chercher finalement.
Oui, d'ailleurs c'est pas le but, je crois qu'au contraire, Proust recherche en nous, évoque en nous cet imaginaire qui est indispensable à la vie. Je crois que c'est l'imagination qui parfois nous fait survivre à la réalité difficile de la vie, et Proust, par cette sonate de Vinteuil et du personnage de Vinteuil qui est fictif, nous donne une bribe de Beethoven, une bribe de Fauré, de Saint-Saëns, de Franck. Là, en l'occurrence, j'ai choisi Cécile Chaminade, Eugène Isaïe, Et bien sûr, Reynaldo Hahn et des œuvres assez inconnues avec Pierre Fauchonneret au violon qui interprète ça merveilleusement.
Votre sonate de Vinteuil, on va en écouter un extrait tout à l'heure. Le point quand même de toutes ces compositrices et compositeurs de l'album, c'est que ils sont à un moment donné dans la recherche du temps perdu.
Oui, ils sont tous cités dans la recherche du temps perdu, donc c'était pour moi une exigence, d'autant plus qu'il y en a plus de 40. Donc la seule chose qui est assez mystérieuse, et j'aimerais bien évoquer cette histoire, c'est Bizet. Il ne parle pas du tout de Bizet, et il se dit qu'il était très 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 proche de Geneviève Halévy et surtout de son fils Jacques Bizet, et que ça a été une sorte d'amour mystérieux d'adolescent, et donc il ne parle jamais de Bizet.
Alors il y a des œuvres très peu connues, et puis il y a un grand compositeur avec une œuvre, elle, inédite au disque, c'est Richard Strauss, écoutez bien. C'est sur l'album, le Proust album, l'album Proust chez Warner de Shani Di Luca, nouvel album de la pianiste qui est notre invitée ce matin. On le reconnaît ici, Richard Strauss, et pourtant ça n'a jamais été enregistré. D'où vient ce nocturne ?
Alors c'est vrai qu'on reconnaît tout de suite les frémissements, c'est l'opus 9, c'est une œuvre de jeunesse et elle a été découverte il y a quelques années à peine, il y a 2-3 ans, dans un marché à Berlin, et dans des cartons et des sortes de coffres qui appartenaient à sa cousine. Et donc les Schubertiades, le grand festival en Autriche, m'a proposé de créer cette œuvre avec la permission des ayants droit. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la partition qui était un manuscrit, il fallait bien sûr déjà la déchiffrer, presque pratiquement à la loupe, chaque détail. Et quand j'ai commencé à la déchiffrer, je trouvais que c'était une telle merveille, une sorte d'impression de couleur. D'ailleurs, Proust parle de Strauss en disant que ce sont des couleurs chatoyantes. Et c'est tout à fait ce qu'on entend dans ce nocturne.
Quelle vivre une émotion très forte de jouer pour la première fois une musique comme ça qui vient de nulle part, qui n'a pas été jouée depuis des années, des décennies.
En tout cas, quand j'ai créé cette œuvre, et même l'enregistrer, c'est une grande émotion parce que c'est comme si on déterrait un trésor. Et de le faire vivre, en plus la musique c'est vraiment quelque chose qui se partage, donc de le faire vivre après des semaines et des mois de travail, je me souviens d'un silence qui a duré des minutes, quelques minutes, c'est assez long, après la fin, après la dernière note de cette pièce de Strauss, donc il y avait une émotion commune, et pour moi il était évident que de l'enregistrer, c'était de la partager aussi avec le plus grand nombre, et de voir à quel point cette époque est riche et contrastée aussi.
Superbe et inédit nocturne de Richard Strauss sous les doigts de Chani Di Luca sur cet album, l'album Proust. Chani Di Luca, il y a une mélancolie dans cette musique. Est-ce que vous partagez la mélancolie de Marcel Proust ?
Oui, certainement. Je crois que le temps qui passe, là, on vient de vivre une nouvelle année. Et le temps qui passe, c'est vraiment un sujet qui nous habite à tous les niveaux. Et je crois que cette mélancolie, c'est la source du désir, c'est la source de l'amour, c'est la source du souvenir. Et je crois que chacun rêverait de construire des souvenirs heureux, en tout cas de pouvoir garder en soi des souvenirs heureux ou des souvenirs malheureux. Et en soi, je trouve que la musique permet de retourner dans ces souvenirs. Et Proust, comme nul autre, arrive à rentrer dans ces dimensions qui font que... on est tissé de 1000 souvenirs et on est enrichi de 1000 couleurs. Donc voilà, je pense que c'est la mélancolie. Je pense aussi à la planète de Mélancolia de Lars von Trier sur la musique de Wagner qui vient vers soi. Il y a vraiment ce rapport à la vie qui est proche, qui est tout à fait lié à la mélancolie.
J'espère qu'on est moins dans l'apocalypse que dans le film oui. de Lars von Trier, la mélancolie de la musique de Reinaldo Hahn ici avec les mots de Marcel Proust, lu par, vous allez le reconnaître peut-être.
La vue de cette petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir.
La voix de Guillaume Gallienne, au loin, Shani Di Luca avec ici Reynaldo Hahn, c'est le rossignol.
Donc c'est le prince Églantine.
Le prince Églantine.
Mais tiré du Rossignol est perdu, effectivement. Et Guillaume Gallienne a tout de suite été heureux de ce projet. Et on a enregistré deux extraits. Et c'est vrai que d'entendre la Madeleine, quand il dit l'édifice du souvenir, l'immense édifice du souvenir, on connaît la Madeleine, mais on connaît peu le texte sur la Madeleine, donc c'était absolument formidable de pouvoir, avec lui, spécialiste de Proust, enregistrer cet extrait.
C'est rare d'avoir comme ça des lectures sur un disque classique, comme c'était rare, on l'écoutait tout à l'heure en début d'heure, d'entendre les musiques indiennes se mêler à Beethoven, de ce goût de construire des disques autrement, des projets autrement. Il y a aussi bien sûr les concerts, c'est quelque chose que vous voulez continuer à développer, Shani Di Luca?
Alors je dirais que chaque disque a son histoire, mais effectivement tisser des liens, je dirais comme à l'époque de la Renaissance, entre les influences picturales, poétiques et musicales, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me fascine au quotidien. Et d'ailleurs, Proust le fait quand il parle de... On pense qu'il parle de Whistler, le grand peintre, quand il évoque lui-même les écrivains de l'époque, Flaubert, de façon parfois un peu négative. Mais ou que ce soit Baudelaire, en fait, ce sont des, comme dirait Baudelaire, les sons et les parfums résonnent. Et pour moi, la musique et les grands compositeurs sont nourris de ces parfums. Et de redonner du sens à tout ça, c'est aussi une manière de faire découvrir la musique classique dans quelque chose de peut-être qui est comme des miroirs, je dirais, comme Sabatier, des miroirs de la musique.
Et à l'inverse, on peut découvrir Proust par la musique, par votre disque ou par des concerts? Comment ils réagissent, les spectateurs, quand ils sortent de ce concert Proust?
Écoutez, j'étais très très heureuse parce que beaucoup de personnes sont venues à moi en disant « j'ai envie de lire Proust », j'allais dire « écouter Proust », après avoir écouté la musique. Et c'est vrai que, comme dit Proust, ce sont ces jardiniers qui fleurissent l'âme et qui tout d'un coup nous donnent du sens. Et je sens que ça réveille des choses chez le spectateur. Donc j'étais très heureuse de voir que non seulement la musique permet d'aller vers la lecture, mais la lecture permet aussi d'aller vers la musique. Donc cet échange est magnifique.
Au printemps, vous allez emmener Proust en Asie, en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka, d'où sont nés vos parents et où ils vivent aujourd'hui. C'est comme vous appréhendez ce moment-là, la réaction de ce public qui connaît peut-être sans doute moins Marcel Proust?
Oui, c'est une gageure effectivement d'amener Proust dans ces contrées, comme ça a été à l'époque avec Beethoven. Et à chaque fois, c'était un test pour moi de faire découvrir des grands compositeurs à une population qui n'a pas toujours accès à cette musique. Et là, par rapport à Proust, en plus c'est l'année du centenaire Proust, puisque en 2022, le 18 novembre exactement, ce sera les 100 ans de sa mort, donc c'est une année importante. Et c'est vrai que les ambassades de France et le service culturel français a voulu prendre ce projet pour l'exporter, et je trouve que Proust est tout à fait universel dans son expression. D'ailleurs, il a un très grand succès au Japon, il a un très grand succès aux États-Unis, et j'étais très heureuse que Warner fasse vraiment confiance à ce projet qui est très francophone au départ, mais finalement qui est complètement, qui dépasse les frontières. Et le fait d'avoir mis des paroles françaises dans un disque à l'international, je trouve que c'est...
C'est des très bonnes critiques anglaises d'ailleurs, hein, qui aiment beaucoup écouter aussi cette langue.
Ah oui, les Anglais, je suis invitée
par Guillaume Gallienne.
Exactement, je suis invitée à jouer en Angleterre, donc oui, il est très très aimé par les anglophones.
Un petit mot, on parlait du temps, de la mémoire, du souvenir. Vous n'avez pas grandi au Sri Lanka, mais vous avez vécu au début du confinement pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, vous étiez là-bas. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que ça a été un moment important, cette période-là? Parce que j'y pense, parce que vous êtes venu juste avant le confinement pour votre précédent disque ici.
Oui, tout à fait. C'était à quelques jours, je crois. En fait, c'était vraiment assez épique, puisque j'étais partie au Sri Lanka avec Elisabeth Leonskaya et Valentin Erben du Quatuor Alban Berg. C'était quand même incroyable de leur faire visiter mon pays d'origine. Et au bout de quelques jours, il y a eu cette angoisse, ce déferlement du Covid, la fermeture des aéroports. Et donc, ils sont partis en catastrophe, ils sont rentrés en Autriche. Moi, j'habitais Vienne à l'époque. Et j'avais le choix de rentrer avec eux ou de rester quelques jours. Évidemment, je voyais mes parents très peu. Et j'ai pris le choix de rester. Sauf que ces quelques jours ont duré 2 mois et demi, presque 3 mois. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que je me suis retrouvée pour la première fois aussi longtemps dans ce pays dont l'exotisme a toujours été présent dans ma vie. Mais là, de le vivre dans le silence, et puis la nature qui se réveille, qui s'est réveillée à Paris aussi. Mais là-bas, c'était extraordinaire. La nature était présente à chaque mètre. Et puis j'avais mon piano. J'ai retrouvé mon piano de mon enfance qui était là-bas. Un vieux kawaii en bois, et j'ai retrouvé des sensations aussi assez incroyables que j'ai partagées parfois, et j'étais étonnée que les gens reçoivent ce piano désaccordé comme une sorte de lumière pendant ce Covid.
Encore une histoire de temps et de souvenirs.
Tout à fait.
Sérénade espagnole de Cécile Chaminade, Pierre Fouchenet au violon, qui sera d'ailleurs l'invité de Gabriel Olivier Aguillon la semaine prochaine, et Shani Di Luca au piano, le disque, l'album Proust, et c'est donc là la fin de votre sonate de Vinteuil. Un grand merci Shani Di Luca, et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Sur France Musique. Demain, notre invité sera la chanteuse mezzo, Léa Desandré, un disque paru il y a quelques semaines également, et puis bientôt sur scène dans Les Noces de Figaro. Au générique de Musique Matin, il y avait aujourd'hui Valentin Bobinet, Antoine Giraud, Marion Guillemet, Flora Sternadel, Pierre Matignon, Yacine Bouzard. La réponse à notre jeu, La Voix Mystère, il y a une heure, c'était celle de Michel Galabru. Voici la gendarmette et le gendarme, Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, on aura une clarinette pour...
Je vous embouche un coin là.
Pour m'emboucher un coin, non mais je nous imaginais tous les deux.
Mais
vous
oui.
Savez, moi il y a tout de suite les images qui viennent comme ça.
Moi je l'imagine en Madame Pervenche,
voilà.
Comment elle, Daniel Evenou, c'est ma Daniel Evenou.
Alors il m'a pas... Ah oui, alors je passe de gendarme à ma maître des contraventions, pourquoi pas. Écoutez, moi ça tout me va en cette année 2022. Bon bref, de la clarinette et du Brahms quoi.
Eh ben super.
À demain.
À demain.
À demain.